Et on commence avec une étude parue hier dans la revue Science avec la conception d'une nouvelle génération d'aimants.
Et dans notre vie de tous les jours, les aimants sont utilisés partout. Ça va d'une manette sur votre frigo, au téléphone portable, au moteur, aux appareils médicaux, aux ordinateurs, aux haut-parleurs de votre radio, jusqu'au micro que nous utilisons actuellement. Bref, tout ce qui est électronique. C'est un budget annuel de presque 30 milliards de dollars. Mais les aimants traditionnels ont quelques défauts. Ils sont souvent créés à haute température, donc cela consomme beaucoup d'énergie. Ce sont souvent des matériaux lourds, très denses en métaux, quelquefois ils sont polluants, et parfois ce sont des métaux rares et onéreux. Une équipe française a mis au point un nouvel aimant à partir de molécules aux propriétés magnétiques bien plus performantes que ses prédécesseurs. Rodolphe Clairac est directeur de recherche au CNRS, au centre Pascal-Paul Pascal, à Pessac. Il est l'auteur principal de cette étude.
On essaie de faire des aimants qui ont des propriétés assez similaires avec ce qui est déjà fait, mais à partir de métaux de transition qui sont très communs, qui sont très faciles à obtenir, le fer, dans notre étude le chrome, mais ça pourrait être des éléments simples qui se trouvent en abondance dans la croûte terrestre et qui sont pas chers du tout. Et on les associe avec de petites molécules organiques. On essaie de trouver des molécules qui sont le moins chères possible, on va dire. Alors l'avantage de nos aimants par rapport aux aimants traditionnels, c'est que comme ils sont, comme les métaux de transition qui portent le moment magnétique sont séparés, eh bien, par des molécules organiques, leur densité, c'est-à-dire leur poids, est beaucoup plus petit. Donc on va avoir des matériaux, des aimants qui sont légers par rapport aux aimants qui sont faits de façon traditionnelle. Et donc cet aimant est le premier aimant qui fonctionne à température ambiante et qui a un effet mémoire. Donc de ce point de vue-là, c'est sans précédent par rapport à ce qui avait été fait avant. Il y a deux autres systèmes moléculaires qui peuvent être utilisés à température ambiante. Et la plus haute température de fonctionnement était autour de 127 degrés Celsius. Là, on a un aimant qui va jusqu'à 242 degrés Celsius, ce qui est quand même une augmentation de sa température de stabilité et d'applicabilité assez importante et sans précédent. Mon équipe est avant tout une équipe qui travaille en recherche fondamentale. Malheureusement, c'est pas forcément quelque chose qui a très le vent en poupe actuellement, à la fois au niveau des financements et autres. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est voir si certains concepts sont possibles. Donc là, l'idée, c'était vraiment de montrer que ces aimants moléculaires n'étaient pas des objets de laboratoire, mais quelque chose qu'on pouvait vraiment obtenir à température ambiante et éventuellement le donner à des ingénieurs pour développer des systèmes applicables, par exemple dans les futurs téléphones portables ou comme ce sont des aimants légers, par exemple dans les satellites ou je ne sais quelle autre application dont j'ai probablement pas idée aujourd'hui.
En bref, hier, la NASA a annoncé que les échantillons de l'astéroïde Bennu de la sonde Osiris-Rex sont bien sécurisés.
Oui, on a eu quelques frayeurs lorsque vendredi dernier, on s'est aperçu que la sonde avait collecté trop de roches de l'astéroïde, que le boîtier de collecte ne se refermait pas et que de la poussière s'en échappait. Ces deux derniers jours, la NASA a retenu son souffle. Le bras robotisé d'Osiris-Rex a transféré tout doucement son butin dans une capsule au centre de la sonde, une capsule hermétique qui s'est bien refermée. Alors selon les images, il y aurait 400 grammes de poussière de Bennu. C'est la première fois que l'on va rapporter sur Terre une telle quantité d'astéroïdes. Le voyage retour est prévu en mars prochain pour un atterrissage en septembre 2023.
Selon une prépublication parue hier sur le site Archive, après tout, il n'y a peut-être pas du tout de phosphine dans l'atmosphère de Vénus.
La grande actualité spatiale de 2020 ne serait peut-être qu'une erreur. Alors selon ce préprint, qui n'a pas encore fait l'objet d'une révision, l'article paru dans Nature Astronomy, selon lequel il y aurait de la phosphine sur Vénus, et donc éventuellement une trace de vie, selon ce préprint, cet article est faussé. Pour ces chercheurs de la NASA, le signal de ce gaz a été confondu avec du dioxyde de soufre, un gaz abondant sur Vénus qui produit un signal proche de celui de la phosphine. Avec les données collectées par le télescope ALMA au Chili, il est impossible de faire la différence de façon concluante entre ces deux gaz. En analysant à nouveau ces données, il ne retrouve aucune trace de phosphine.
Cette semaine, dans le Journal des Sciences, il a été question de la pollution atmosphérique qui pourrait être un facteur aggravant de la maladie d'Alzheimer, de l'abondance d'eau glacée à la surface de la Lune, de l'observation de galaxies très matures dans l'univers jeune, des erreurs commises lors du déconfinement, mais également dans l'actualité des sciences cette semaine, Natacha, et en ultra bref.
Hier, l'IPBES a publié son nouveau rapport sur les liens entre les pandémies et la biodiversité. Je cite « Dans les décennies à venir, les pandémies vont être plus nombreuses, plus meurtrières, se propageront plus vite et feront plus de dégâts à l'économie mondiale. Sauf sauf si nous freinons radicalement la perte de biodiversité. Face à cette nouvelle ère des pandémies, plutôt que de réagir, mieux vaut prévenir, disent les experts. De plus, préserver la nature coûterait 100 fois moins cher que de subir les dégâts économiques de ces épidémies. Des biologistes australiens ont découvert cette semaine un récif corallien gigantesque, un récif d'un demi-kilomètre de haut. C'est encore plus haut que l'Empire State Building. C'est la première fois en 120 ans que l'on découvre un nouveau récif dans la Grande Barrière de Corail en Australie. Et bonne nouvelle, contrairement à la plupart des récifs aux alentours, il est en bonne santé. Et enfin, sachez que lorsqu'une pieuvre vous touche avec ses tentacules, elle vous goûte, ou plus exactement, elle vous lèche. Une équipe américaine a identifié sur leur ventouse des cellules chimio-sensorielles aux capacités odorantes et gustatives. Cela leur permettrait de détecter les proies potentiellement toxiques. Les 8 tentacules des céphalopodes sont donc à la fois des mains, des cerveaux et des langues.
Dans quelques minutes, on partira à la recherche de l'anarchie in the SF avec nos 3 invités. Mais avant cela, on ouvre le journal de la science-fiction. Et on commence ce journal de la SF avec une étude parue dans Classical and Quantum Gravity, un voyage dans le temps sans paradoxe et mathématiquement possible.
Et la question du voyage dans le temps fait encore débat chez les physiciens. Alors certes, le voyage dans le temps n'existe pas dans la physique que l'on connaît, mais dans les équations de relativité formulées par Einstein, on s'est vite aperçu que ces formules, d'un point de vue mathématique, autorisent de voyager aussi bien vers le futur que vers le passé. En 1937, William Jacob von Stockham est le premier à avoir formulé l'idée de boucle temporelle. Mais problème, c'est qu'elles peuvent rompre le principe de causalité, l'un des grands fondements de la physique. On illustre le plus souvent par le paradoxe du grand-père. Si on peut partir dans le passé, on pourrait tuer son grand-père et donc ne plus exister, ce qui serait un paradoxe. Pour ces 2 mathématiciens américains, il est possible, toujours d'un point de vue mathématique, de voyager dans le temps, et ce, sans paradoxe. Marie-Christine Angonin est professeure à la Sorbonne Université et à l'Observatoire de Paris. Elle travaille sur les aspects théoriques de la relativité.
L'exemple le plus connu, c'est le trou de ver dont on entend parler, par exemple, dans les films comme Interstellar, qui permettent de faire des voyages raccourcis dans l'espace-temps. À partir du moment où l'espace-temps est déformé par une matière exotique qu'on ne connaît pas, encore une fois, on parle de masse négative, d'énergie imaginaire, on peut imaginer donc pouvoir faire des boucles temporelles qui tournent sur elles-mêmes. Eh bien, des mathématiciens se sont aperçus que ces boucles temporelles qui sont isolées dans l'univers, en fait, pourraient se connecter entre elles et former des systèmes complexes qui fassent qu'il pourrait y avoir du signal qui parte d'une boucle à une autre. C'est-à-dire qu'elles ne soient pas isolées, mais qu'elles soient isolées en groupe, en quelque sorte. Et le fait qu'elles soient isolées en groupe fait qu'on n'a plus quelque chose qui tourne sur lui-même indéfiniment et qui ne donnerait aucune information, qui n'aurait aucun intérêt, quoi, en quelque sorte. C'est un univers fermé, en quelque sorte. Mais d'avoir des communications entre ces différentes boucles et permettant aux observateurs, comme ils disent, coincés dans ces boucles, d'avoir quand même des actions possibles, une dynamique possible, des choix possibles de communication entre ces différentes boucles. Ça reste un système isolé globalement du reste de l'univers. On n'en est pas encore à pouvoir rentrer dans une machine temporelle et puis à faire des choses un peu bizarres, mais ça reste quand même un système complexe, acausal, comme ils disent. Pour moi, la chose importante, c'est vraiment la dernière phrase de l'article, comme quoi les auteurs eux-mêmes prennent du recul par rapport à leurs résultats en disant « mais on n'a aucun exemple concret physique qui puisse exister à l'heure actuelle. C'est un jeu mathématique, c'est un jeu d'esprit. » tels qu'on les aime bien dans la recherche. Donc ça, c'est très excitant, effectivement, même si on n'a absolument aucune application concrète de cette chose-là. Il n'empêche que c'est très excitant du point de vue intellectuel de se projeter vers des systèmes qui posent des questions réelles sur ce que c'est que la causalité dans l'univers et comment ça peut fonctionner et comment on peut aller aux frontières de cette notion.
En bref, selon une étude parue dans The Astronomical Journal, la NASA a détecté une étrange molécule sur Titan.
Et Titan, le plus grand satellite de Saturne avec ses lacs d'hydrocarbures et son atmosphère azotée, il est un candidat sérieux pour abriter la vie. Avec le télescope ALMA au Chili, les équipes de la NASA ont détecté dans son atmosphère, non pas de la phosphine, mais du C3H2, du cyclopropénylidène, une molécule extrêmement rare qui n'existe sur Terre qu'en laboratoire. C'est aussi la première fois que l'on détecte cette molécule dans l'atmosphère d'une planète. Cette molécule complexe est ce que l'on appelle une molécule cyclique qui pourrait aussi être un élément des nucléobases de l'ADN et de l'ARN, en d'autres mots, des molécules organiques.
La NASA et l'ESA vont construire ensemble une base lunaire.
Et c'est officiel, les deux agences s'associent pour le projet intitulé la Passerelle, une future station spatiale en orbite autour de la Lune. Ce projet intègre le programme Artemis qui vise à envoyer sur la Lune des astronautes d'ici 2024. La Passerelle devrait être 6 fois plus petite que la Station Spatiale Internationale, mais elle servira de point de ravitaillement, mais aussi de point d'étape pour les prochaines missions d'exploration humaine sur Mars. La construction pourrait commencer d'ici 2022.
Et enfin, on termine comme chaque vendredi par notre rubrique de sciences improbables. Natacha, selon une étude parue dans la revue Journal of Zoology, les rats taupes nus kidnappent des bébés d'autres colonies pour en faire des esclaves.
Oui, on sait que ce drôle de mammifère, aux dents courbées et à la peau ratatinée, résiste au cancer, survit pendant 20 minutes sans oxygène et tolère des niveaux de douleur étonnamment élevés. Cette équipe américaine a découvert qu'ils sont aussi esclavagistes, comme certaines fourmis. Depuis le début des années 90, les chercheurs suivent 26 colonies de rats taupes nus et ils ont mené des analyses génétiques. Selon eux, des bébés sont kidnappés pour être ensuite transformés en ouvriers non reproducteurs, une main-d'œuvre nécessaire pour creuser des galeries souterraines qui peuvent s'étendre sur des kilomètres.
Vraiment un animal délicieux. Merci beaucoup, Natacha, et on se retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences.